Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 2. Que représente pour vous l'union à Dieu? Ensuite, nous verrons ce que veut dire vivre en présence de Dieu. Et troisièmement, l'amour du prochain. Donc, tout d'abord, voyons un peu l'union à Dieu. Il me suffit que Dieu soit Dieu, que sa bonté soit infinie, que sa perfection soit immense, que je meure ou que je vive, il importe peu pour moi, puisque mon cher bien-aimé vit éternellement d'une vie toute triomphante. La mort même ne peut attrister le cœur qui sait que son souverain amour est vivant pour l'éternité. Chers amis, avant de connaître la passion et la croix du calvaire, le Christ disait à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Dans l'œuvre de notre sanctification, c'est Dieu qui parle à notre cœur. C'est lui qui prend l'initiative. Tout comme il est la source de notre être, il est aussi la source de notre sainteté. Il est celui qui nous libère du péché et nous donne d'avoir part à son amour jusque dans la vie éternelle. Devenir de véritables chrétiens, c'est accepter de nous laisser séduire par Dieu. Il nous tire à lui par la prière et par l'écoute de sa sainte parole. L'essentiel, voyez-vous, pour le vrai chrétien, c'est de vivre dans l'intimité de Dieu, d'épanouir sans cesse l'union de cœur qu'il nous propose. Et si notre cœur se laisse irradier par l'amour de Dieu, notre vie devient totalement une adhésion à sa volonté sainte. En nous laissant conduire par l'esprit d'amour jaillissant de la Trinité sainte, nous serons aussi toujours davantage ouverts aux exigences du commandement de l'amour fraternel, et le Seigneur nous embauchera à sa vigne, il nous mobilisera pour la construction de son royaume. L'acceptation de notre vocation à être des saints ne signifie nullement que nous nous chargeons d'un poids écrasant de prescriptions et d'interdits. Elle est l'acceptation de vivre libre, plus exactement, acceptation d'être sans cesse libéré du péché pour un don toujours plus total au Christ. Sans oublier cependant que ce don comporte une rupture avec l'égoïsme et qu'il se prolonge dans l'ouverture aux autres. Sauvés par le Christ, nous n'en continuons pas moins à subir les tiraillements du péché. Chers amis, pour nous porter à la sainteté, Christ, qui nous a rachetés par son sang, désire infiniment que nous l'aimions, afin que nous soyons éternellement sauvés, et il désire que nous soyons vraiment sauvés, afin que nous l'aimions éternellement, et son amour nous unit à notre salut, et notre salut à son merveilleux amour. Jésus-Christ nous prévient de sa bénédiction et de sa douceur fraternelle et excite nos esprits pour les pousser à la sainte repentance et la conversion. Car l'amour du Dieu créateur se double d'un amour libérateur. Car nous abusons de notre liberté et il nous arrive de nous éloigner de Dieu, voire de nous détourner de lui par le péché. Et certes, nous mériterions bien de demeurer abandonnés de Dieu quand, avec cette déloyauté, nous l'avons ainsi abandonné. Mais son éternelle charité ne permet pas souvent à sa justice d'user de ce châtiment, mais excitant sa compassion, elle le provoque à nous retirer de notre malheur, ce qu'il fait en voyant le vent favorable de sa très sainte inspiration, laquelle, venant avec une douce violence dans nos cœurs, elle les saisit, et relevant nos pensées et poussant nos affections vers le divin amour. Oui, chers amis, quelle sera notre réponse aux prévenances de Dieu? Si nous acceptons d'ouvrir nos cœurs à ses dons, si nous ne repoussons point la grâce du saint amour, elle se va dilatant par de continuels accroissements dedans nos âmes, jusqu'à ce qu'elles soient entièrement converties, comme les grands fleuves qui trouvent les plaines ouvertes se répandant et prenant toujours plus de place. Merveille de l'infinie bonté de Dieu, l'inspiration céleste vient à nous et nous prévient, excitant nos volontés à l'amour sacré. Que si nous ne la repoussons pas, elle vient avec nous et nous environne pour nous inciter et pour nous pousser toujours plus avant. Et si nous l'abandonnons pas, elle ne nous abandonne pas non plus, jusqu'à ce que nous ayons rendu au port de la très sainte charité. En effet, jusqu'à ce que nous soyons rendus, amenés au port de cette très sainte charité. Car voyez-vous, elle nous guide en tout notre voyage. Elle nous garantit des périls et des assauts du diable, ça c'est vrai. Mais elle nous console également, anime et fortifie en nos difficultés. Appelés à entrer dans la dynamique de l'amour que Dieu nous offre, nous nous réjouissons de vivre en sa présence. Nous nous complaisons en lui pour nous émerveiller de ses richesses et de ses perfections infinies. Il suffit de regarder les jeunes amoureux et leur comportement illustre quelle doit être la ferveur de notre réponse d'amour à l'appel de Dieu. Comme ceux qui sont amoureux d'un amour humain et naturel ont presque toujours leurs pensées tournées du côté de la chose aimée, leur cœur plein d'affection envers elle, leur bouche remplie de ses louanges, et qu'en son absence, ils ne perdent point l'occasion de témoigner leur passion par l'être et ne trouvent point d'arbre sur l'écorce, duquel ils n'écrivent le nom de ceux qu'ils aiment. Ainsi, ceux qui aiment Dieu ne peuvent cesser de penser à lui, respirer pour lui, aspirer à lui et parler de lui. Nous complaire en Dieu, ce n'est pas seulement vivre dans son intimité, c'est aussi savourer sa bonté, nous parfumer de toutes ses perfections. L'âme, en recherche de sainteté, ressent des tressaillements et des élans de joie pour le plaisir qu'elle a de regarder les trésors du roi, de son saint amour, et surtout quand elle voit que lui-même les lui montre par amour, et qu'entre ses perfections, celle de son amour infini, reluit merveilleusement. Oui, nous pouvons dire gloire et louange à Dieu, car l'amour de Dieu est libérateur. Il éloigne et il élague en nous tant de désirs inutiles qui voudraient nous envahir pour nous mettre en recherche de l'unique vrai bien. Alors de nos cœurs jaillit la louange, que le nom de Dieu soit béni, exalté, loué, honoré et adoré de plus en plus. Mais l'amour va bien plus loin. Au-delà des sentiments et des paroles, il nous porte à vouloir le bien de l'être aimé. Celui qui aime vraiment est plein de prévenance à l'égard de la personne aimée. Il cherche sans cesse à combler ses vœux et ses désirs. Lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, il faut bien admettre notre impuissance. Que pourrions-nous souhaiter à Dieu qu'il ne l'ait déjà en plénitude? N'est-il pas la perfection infinie? En effet, Dieu, comblé d'une bonté qui surmonte toute louange et tout honneur, ne reçoit aucun avantage ni augmentation de bien pour toutes les bénédictions que nous lui donnons. Il n'en est ni plus riche, ni plus grand, ni plus content, ni plus heureux, car son bonheur, son contentement, sa grandeur et ses richesses ne sont ni ne peuvent être que la divine infinité de sa merveilleuse bonté. Si nous ne pouvons rien donner à Dieu qu'il ne l'ait déjà, du moins pouvons-nous lui faire l'offrande de notre louange et de notre action de grâce. Et nous pouvons aussi œuvrer pour que le nom de Dieu soit sanctifié par tout l'univers. C'est cette divine passion qui fait tant faire de prédications afin de faire connaître et adorer le nom sacré de Jésus-Christ émis parmi les peuples. Et c'est cette passion sainte qui fait tant écrire de livres de piété, tant fonder d'églises, d'hôtels, de maisons pieuses, et en somme, qui fait veiller, travailler et mourir tant de serviteurs de Dieu entre les flammes, oui, les flammes du zèle qui les consument et les dévore. Chers amis, pour être authentique, la recherche de la sainteté doit s'épanouir dans un cœur à cœur toujours plus intense avec Dieu. Elle doit aller plus loin encore et transformer toute l'existence de celui qui accepte d'être sauvé en Jésus-Christ et d'être conduit par son Esprit Saint. Si le nom de Dieu doit être sanctifié par tout l'univers, il faut aussi que sa volonté se fait sur la terre comme au ciel. Oui, il est vrai, faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Ainsi donc se fait la conformité de notre cœur avec celui de Dieu, lorsque par la sainte bienveillance, nous jetons toutes nos affections entre les mains de la divine volonté, afin qu'elle soit par elle pliée et maniée à son gré, moulée et formée selon son bon plaisir. Et en ce point consiste la très profonde obéissance d'amour, laquelle n'a pas besoin d'être excitée par menace ou récompense, ni par aucune loi ou par quel commandement, car elle prévient tout cela en se soumettant à Dieu pour la seule et très parfaite bonté qui est en lui, à raison de laquelle il mérite que toute volonté soit obéissante, sujette et soumise, se conformant et unissant à jamais en tout et partout à ses intentions divines. Voyez-vous, chers amis, nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera automatiquement dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de son Père qui est dans les cieux. Sans aucun doute, la sainteté à laquelle nous sommes appelés nous porte vers Dieu d'un amour que l'on peut qualifier d'affectif, d'un amour qui nous remplit de complaisance, de bienveillance, d'élan, de souhait, de soupir et d'ardeur spirituelle. Une âme qui se complaît en Dieu ne veut plaire qu'à Dieu. Elle se détache de tout ce qui peut la dissiper et la détourner de son souverain bien. Dieu nous invite à la contemplation de sa beauté et de ses perfections, à la contemplation de sa providence et de ses bienfaits à l'égard de ses créatures. Il n'y a pas de sainteté sans un cœur à cœur et une intimité qui aille croissant. Mais l'union à Dieu doit déboucher sur la conformité au bon vouloir divin. Si je me plais en Dieu, je vais aussi plaire à Dieu. Nous ne devons jamais oublier que l'amour affectif doit se prolonger en amour effectif, lequel répand en nous la solide résolution, la fermeté de courage et d'inviolable obéissance requise pour effectuer les ordonnances de la volonté de Dieu et pour souffrir, approuver et embrasser tout ce qui provient de son bon plaisir. Parce que nous complaisons en Dieu dans l'émerveillement de sa perfection et de sa bonté, et nous nous soumettons à sa volonté sainte. est la preuve de l'authenticité de notre amour de Dieu se trouve dans cette adhésion, oui, cette adhésion à sa sainte volonté. Alléluia. N'est-ce pas à ses fruits que l'on reconnaît la qualité d'un arbre? La vie dévote, un mot peu utilisé, mais qui veut tout dire, la vie dévote, ce mot a évidemment vieilli et sonne mal aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de sentimentalité, c'est l'amour de Dieu dans toutes ses exigences, un amour qui nous donne la force d'agir et de faire le bien soigneusement, fréquemment et promptement. C'est l'amour affectif qui devient effectif, alléluia, afin de réaliser tout ce que nous connaissons être agréable à Dieu et d'accomplir généreusement tout ce qui apparaît relevé de son bon vouloir. Et à force de se plaire en Dieu, on devient conforme à Dieu et notre volonté se transforme en celle de la divine majesté par la complaisance qu'elle y prend. Voyez-vous, cette adhésion à la volonté de Dieu est un fruit de l'amour. Elle ne peut se vivre que dans la liberté. Or, d'autant que cette volonté signifiée de Dieu procède par manière de désir et non par manière de vouloir absolu, nous pouvons ou la suivre par obéissance ou lui résister par désobéissance, car Dieu fait deux actes de sa volonté pour ce regard. Il désire que nous ne résistions pas et permet néanmoins que nous résistions si nous voulons. Que nous puissions résister, cela dépend de notre naturelle condition et liberté, et cela dépend de notre volonté que nous ne résistions pas. C'est selon le désir de la divine bonté. Où est la volonté de Dieu? Cette question n'est pas aussi simple qu'on peut nous le faire croire. Dans sa prévenance à sa bonté, Dieu nous signifie quelle est sa volonté. La doctrine chrétienne nous propose clairement les vérités que Dieu veut que nous croyions, les biens qu'il veut que nous espérions, les peines qu'il veut que nous craignions, les commandements qu'il veut que nous fassions, et les conseils qu'il désire que nous suivions. Et tout cela s'appelle, évidemment, la volonté signifiée de Dieu, parce qu'il nous a signifié et manifesté qu'il veut et entend que tout cela soit cru, espéré, craint, aimé et pratiqué. Tel est le cadre général dans lequel doit s'inscrire notre recherche de la sainteté. Mais il ne faut pas oublier que les situations sont concrètes et que la voie à suivre pour grandir dans l'amour de Dieu peut varier d'une personne à une autre. La volonté de Dieu sur nous comporte aussi les commandements particuliers qu'un chacun a pour le regard de sa vocation. Ne sommes-nous pas tentés souvent de voir dans les différentes prescriptions contenues dans la sainte parole de Dieu et dans l'enseignement du magistère de l'Église, autant d'interdits que semblent entraver carrément notre liberté d'action. Aujourd'hui encore, et pour nous tous, retenir l'avertissement de l'apôtre Paul, ne soyez pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyons pas irréfléchis et méditons sans cesse et dans l'humilité la parole de Dieu qui nous révèle le merveilleux dessein d'amour du Père sur l'humanité. Ne soyons pas irréfléchis et comprenons toujours davantage que le Christ est la tête de l'Église, qu'il la sanctifie sans cesse afin que son salut soit accueilli par tout l'univers. Alors, dans la foi et la joie, adhérons à la volonté de Dieu, aux prescriptions morales que nous rappelle le magistère de l'Église. Elles ne sont en rien démodées. En notre siècle, qui, comme vous le savez, se veut tellement de progrès. Par-dessus tout, que notre adhésion à la volonté de Dieu résulte de notre amour et non pas de la crainte. L'obéissance au commandement de Dieu et de l'Église ne peut pas reposer principalement sur la peur des châtiments ou la crainte de l'enfer. Dieu nous demande une obéissance d'amour. Et une telle obéissance n'a pas besoin d'être excitée par la menace, ni par aucune loi ou par quelque commandement ultra sévère. Chers amis, il faut tout faire par amour et rien par la force. Il faut davantage aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. L'amour ne se vit pas sous la contrainte. Il fait librement tout ce que veut l'être aimé. Et c'est pourquoi la conformité de notre cœur à la volonté signifiée de Dieu consiste en ce que nous voulions, tout ce que la divine bonté nous signifie être de son intention, croyons selon sa doctrine, espérons selon ses promesses, craignons selon ses menaces, aimant et vivant selon ses ordonnances et ses avertissements. Dieu nous demande d'aller plus loin encore dans l'amour. Il nous dit son bon plaisir. Et cela à travers les événements qui sont l'expression de sa divine providence à notre égard. Il s'agit pour nous d'accueillir dans la foi la réalité quotidienne avec tout ce qu'elle comporte de joie, mais aussi de peine. Il s'agit pour nous d'y voir la volonté de Dieu sur nous et de l'adorer même quand elle nous enverra parfois des tribulations. Dans la foi, nous devons nous abandonner avec confiance à la bonté de Dieu, adhérer à la volonté de Dieu jusque dans les plus petites choses du vécu quotidien. Et c'est découvrir en toute sa présence merveilleuse, aimante. Regardons avec sérénité tout ce qui nous arrive, puisque Dieu est avec nous. Et lorsque la route se fait dure, lorsque l'épreuve devient lourde, gardons au cœur une grande paix, car en tout et partout, Dieu aime ceux qui, de bon cœur et simplement, en toute occasion et en tout accident ou circonstance, peuvent lui dire « Votre volonté soit faite ». L'union à Dieu et la conformité à la volonté sainte de Dieu sont les deux composantes de la recherche de la perfection. C'est la quintessence de la vie spirituelle que ce parfait abandonnement entre les mains du Père Céleste et cette parfaite indifférence en ce qui est de ses volontés, car tout le retardement de notre perfection ne provient que de ce défaut d'abandon. Et il est vrai qu'il faut par là commencer, poursuivre et finir la vie spirituelle à l'imitation du Sauveur qu'il a fait avec une admirable perfection au commencement, au progrès et à la fin de sa vie. Chers amis, que veut vraiment dire vivre en présence de Dieu? Ou on peut dire, ressouvenez-vous donc, philotei, ou rappelez-vous, philotei, de faire toujours plusieurs retraites en la solitude de votre cœur, car pendant que corporellement, vous êtes parmi les conversations et affaires, et cette solitude mentale, elle ne peut nullement être empêchée par la multitude de ceux qui vous sont autour, car ils ne sont pas autour de votre cœur, mais ils sont autour de votre corps, de telle sorte que votre cœur demeure, lui, tout seul, en la présence de Dieu seul. Donc, il est important de se rappeler qu'au cœur de chaque baptisé, l'Esprit du Seigneur est agissant, qui nous fait reconnaître d'un même mouvement Dieu comme un père et le prochain comme un frère. Il n'est pas possible d'être des saints sans vivre en présence de Dieu, sans progresser dans l'intimité qu'il nous propose, et sans être des âmes de prière. Telle est la condition première de l'avancement spirituel. Voyez-vous, nous sommes ainsi faits que nous sommes attirés par un bien uniquement si nous le connaissons et pour autant qu'il nous convienne et nous séduise. Il faut en tirer la conséquence. Plus nous connaissons Dieu, plus aussi nous sommes portés vers lui d'un désir ardent et l'aimer plus nous le contemplons, plus aussi nous nous détachons des choses terrestres pour n'être attirés que par lui et nous attacher à lui seul, notre amour pour Dieu ne peut être qu'un fruit de la contemplation. Il ne peut résulter que de la compréhension de sa grandeur et de l'amour qu'il nous porte. C'est le sens de la prière. Elle nous donne de rencontrer Dieu, de voir ses merveilles et de les méditer. Donc, chers amis, il est absolument nécessaire d'être des âmes de prière. Oui, il y a plusieurs manières de prier. Il nous est possible de le faire avec des formules toutes prêtes qui nous sont proposées. Nous pouvons prier individuellement ou en groupe. Mais surtout et toujours, notre prière doit être la rencontre du Dieu vivant et l'expression de notre amour. Enfin, les enfants, à force d'entendre leur mère et de bégayer avec elle, apprennent à parler leur langage. Et nous demeurons près du Sauveur par la méditation et observant ses paroles, ses actions et ses affections. Nous apprendrons, moyennant sa grâce, à parler, faire et vouloir comme lui, notre Seigneur. Qui dit vie de prière, qu'elle soit vocale ou mentale, dit aussi temps de prière. Surgit alors une objection. Nous sommes surchargés de travail. Nous n'avons pas de temps ou si peu pour prier. Ça, c'est raisonner de manière irréfléchie, un peu à l'image de l'automobiliste pressé qui, sous prétexte d'avoir une longue route à faire, voudrait éviter de perdre du temps et renoncerait à s'arrêter pour faire le plein d'essence, ou il va simplement brûler un stop. Un chrétien doit savoir s'arrêter pour prier. Le temps qu'il peut donner au Seigneur dépend, certes, des situations concrètes. Il dépend avant tout de sa plus ou moins grande foi et de sa plus ou moins grande générosité. Respectons donc les véritables priorités, le temps que nous déterminons de donner à Dieu en l'oraison, en priant. Donnons-lui avec notre pensée libre et désoccupée de toute autre chose, et donnons-lui tout cela avec résolution. L'essentiel est de vivre constamment en présence de Dieu et de grandir sans cesse dans son intimité. Ressouvenez-vous donc à nouveau de philotée, de faire toujours davantage des retraites en la solitude de votre cœur, et ceci pendant que, corporellement, vous êtes parmi les conversations et les affaires, et cette solitude mentale ne peut nullement être empêchée par la multitude de ceux qui vous sont autour, car ils ne sont souvent, il me semble, pas autour de votre cœur, mais ils sont autour tout simplement de votre corps, en sorte que votre cœur demeure, lui, tout seul, en la présence de Dieu. Il est vrai que le rythme de notre vie s'est considérablement accéléré en notre siècle de progrès technique, et la multiplicité des informations qui nous submergent tend à nous faire oublier totalement l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Il s'agit, croyez-moi, de mieux percevoir son amour et de nous laisser entraîner dans le cœur à cœur qu'il nous propose. Oui, il est possible de vivre dans l'intimité de Dieu, au cœur même d'une existence très active. La dynamique et l'efficacité de notre travail n'en sont nullement affectés. Cet exercice de la présence de Dieu au long de la journée n'est point malaisé, car il peut se réaliser en toutes nos affaires et occupations sans aucunement les incommoder. La prière authentique, qu'elle soit vocale ou cordiale, et la contemplation des merveilles de Dieu et de s'épanouir en intimité avec le Seigneur. Cela ne signifie nullement qu'elle soit évasion de la réalité. Bien au contraire, la prière ne pourra jamais être un alibi valable pour négliger de prendre aux exigences de notre vocation propre. Si elle est vraie, véritable, elle transformera nos comportements et leur donnera d'être plus conformes à ceux du Christ que nous contemplons. La méditation répand des bons mouvements en la volonté ou partie affective de notre âme, comme sont l'amour de Dieu et du prochain, le désir du paradis et de la gloire, le zèle du salut des âmes, la compassion, l'admiration, la réjouissance, la crainte de la disgrâce de Dieu, du jugement et de l'enfer, la haine du péché, la confiance en la bonté et miséricorde de Dieu, et la confusion pour notre vie passée, pas toujours honorable. Chers amis, Dieu veut être avec nous. Et c'est pour transformer sans cesse notre présence aux autres. Une véritable prière est une prière qui améliore la qualité de notre vie en donnant le champ libre à l'Esprit Saint qui veut nous libérer de l'égoïsme et de l'orgueil et épanouir en nous son fruit, le fruit de l'esprit, et charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Oui, il est vrai que souvent nous avons peu de goût pour la prière. Ceci, c'est parce que nous n'avons guère envie de nous convertir ou parce que nous nous trompons de cible. Nous cherchons à y ressentir des émotions, à y trouver des consolations. Et lorsque la prière devient ardue, lorsque nous y rencontrons l'aridité, alors nous sommes très vite tentés de considérer qu'elle est une perte de temps, sous prétexte de sincérité. Nous abandonnons et nous tombons dans l'infidélité. Nous faisons volontiers comme les petits enfants auxquels, quand on donne du miel sur un morceau de pain, ils lèchent et sucent le miel et jettent le pain. Dieu est toujours Dieu. Il mérite autant d'être aimé aujourd'hui où ma prière est ardue et semée de difficultés que hier où tout était ferveur et consolation. Combien de chrétiens ont perdu le sens de la prière parce qu'ils ont perdu le sens de la proximité de Dieu. Ils en font un être perdu dans les nuages, totalement étranger à ce qu'ils vivent. Il ne se rappelle son existence que dans les moments de terribles épreuves, lorsqu'ils ont besoin de telle réussite ou de telle guérison. Leur prière n'est plus désintéressée, elle est devenue incantation plus ou moins magique pour écarter des dangers ou pour obtenir des avantages. La prière du chrétien, pour être véritable, doit être d'abord et avant tout la louange de Dieu. Que ce soit facile ou pénible, elle doit aussi conformer toute notre vie à la volonté sainte du Père céleste, et imprégner tous nos comportements de la charité. Chers amis, nous terminerons cette étude par l'amour du prochain. Comme Dieu créa l'homme à son image et ressemblance, aussi a-t-il ordonné un amour pour l'homme à l'image et ressemblance qui est due à sa divinité. Et c'est pourquoi non seulement le divin amour commande maintes fois l'amour du prochain, mais il le produit et répand lui-même dans le cœur humain comme sa ressemblance et son image. Oui, dans le prolongement de la pensée grecque, l'homme est souvent défini comme un animal raisonnable. Sa grandeur est d'être doué d'une intelligence capable de réflexion, d'une volonté susceptible de faire des choix et donc d'aimer. Surpassant de beaucoup tous les animaux, il peut se situer en face de l'infini de Dieu, percevoir son amour et y répondre. Aujourd'hui, nous nous accommodons assez mal à cette vision trop statique de l'homme et qui laisse dans l'ombre toute la richesse des relations humaines. une autre vision plus dynamique a surgi. L'homme se définit par ses visées, par ses relations. La richesse d'une personnalité tient pour beaucoup à la qualité de sa présence aux autres. Contemplons le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Il s'est voulu Dieu avec nous. Et son irruption dans notre existence conditionne sans cesse notre présence aux autres et remet en question la qualité de cette présence. Ô pharisiens, désireux de connaître quel était le plus grand commandement de la loi, le Christ a donné une réponse sans équivoque. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au troisième millénaire, à l'homme assoiffé de bonheur et d'épanouissement, le Christ ne donne pas une autre réponse. Le testament qu'il a laissé aux siens avant de rejoindre le Père nous ramène à l'essentiel. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. La charité fraternelle que nous demande le Seigneur n'est pas une affaire de sentimentalité ni d'inclination naturelle. Elle s'enracine dans nos visions de foi. Si le prochain est notre frère, c'est parce qu'il est lui aussi créature de Dieu, créature faite à son image et à sa ressemblance. Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes en charité? Certes, c'est parce que nous sommes l'image, on peut dire l'image créée à la ressemblance de Dieu. Et puisque tous les hommes ont cette dignité, nous les aimons aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de très saintes et vivantes images de la divinité, car c'est en cette qualité-là que nous appartenons à Dieu d'une si étroite alliance et d'une si aimable dépendance, qu'il ne fait absolument aucune difficulté de se dire notre Père et nous nomme même ses propres enfants. Voyez-vous cette marque de Dieu inscrite en tout être humain et sans cesse contrecarrée par qui, par quoi? Par le péché. Personne n'échappe aux réactions de son être de chair en face d'autrui. Un tel nous apparaît sympathique, tel autre nous est totalement antipathique. Tel autre nous attire aujourd'hui et nous semble séduisant, qui peut-être demain nous agacera profondément. tel comportement nous énerve, tel autre nous enchante. Il n'est pourtant pas possible de nous laisser conduire au gré des vagues qui surgissent de notre être profond. L'essentiel est ailleurs. Ce qui doit orienter nos comportements, nous devons tous porter en nous l'image du Créateur. Nous sommes par conséquent l'image les uns des autres, ne représentant tous qu'un même portrait qui est Dieu. Et en raison d'une telle source, aimer le prochain par charité, c'est évidemment aimer Dieu en l'homme. Quoi d'étonnant alors qu'il soit nécessaire, chers amis, d'avoir la force de Dieu pour pouvoir obéir au commandement qu'il nous a donné, car l'amour du prochain, elle va naître de l'amour de Dieu comme de sa source. Cet amour du prochain s'enracine aussi dans le mystère de la rédemption. La croix du Christ nous semble tous au sein d'une seule et même famille qui est le peuple de Dieu, le peuple des rachetés. Aimez-vous donc les uns les autres, nous dit l'apôtre Paul, comme notre Seigneur nous a aimés. Il s'est offert en holocauste. Ce fut l'or qu'étant sur la croix, il répondit jusqu'à la dernière goutte de son sang sur la terre, comme pour faire un ciment sacré duquel il devait et voulait cimenter en quelque sorte, unir, joindre et attacher l'une à l'autre toutes les pierres de son Église qui sont les fidèles, et ceci afin qu'ils fussent tellement unis que jamais il ne se trouva aucune division entre eux. Oh combien ce motif est prégnant pour nous inciter à l'amour de ce commandement et à son exacte observance. Nous avons été également arrosés de ce sang précieux, comme d'un ciment sacré, pour serrer et pour unir nos cœurs les uns aux autres. N'oublions pas non plus que tous nous sommes conviés au repas du Seigneur qui doit produire en nos vies des fruits de charité dans l'esprit. Nous sommes tous un seul corps, nous qui participons à la Sainte Cène. Oui, chers amis, nous savons tous que l'égoïsme est un compagnon de route tenace, ce qui nous oblige à nous remettre constamment en question. Il est si facile de nous contenter de bonnes paroles. Or, la charité fraternelle ne se vit pas en paroles seulement, mais aussi de manière bien concrète. La charité est longanime, la charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Vivre le commandement de la charité est très exigeant, car il y faut de la générosité et beaucoup de courage pour accepter les autres, surtout tels qu'ils sont, et y compris avec tous leurs défauts. Il faut que l'amour du prochain soit un amour ferme, constant, invariable, qui ne s'attache point aux niaiseries, ni aux qualités et conditions des personnes. Il est imitation de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous supporte en nos défauts et en nos imperfections, sans néanmoins les aimer ni les favoriser. Il faut donc que nous en fassions de même en l'endroit de nos frères et sœurs, ne nous lassons jamais de les supporter. L'amour du prochain nous fait même condescendre aux volontés du prochain. Et ceci pour autant qu'elle ne soit pas contraire au commandement de Dieu. Il exige de nous assez de lucidité, oui, ça exige de nous un bon paquet de lucidité pour percevoir quel est l'impact de nos comportements sur ceux qui font route avec nous. Nos manières de faire, oui, nos manières de faire, par exemple, peuvent être fort désagréables pour les autres, et sans même que nous nous en rendions compte. La pratique de la charité nous ouvre à ceux qui connaissent l'épreuve et la souffrance. À l'une de ces correspondantes, eh bien, je me rappelle qu'un pasteur avait écrit ceci. Je vous conseille de prendre quelquefois la peine de tout simplement visiter les hôpitaux, consoler les malades, considérer leurs infirmités, attendrir votre cœur sur telle ou telle personne et prier pour eux en leur faisant quelques assistances. Oui, l'amour authentique. L'amour authentique du prochain nous poussera toujours à lui procurer tout le bien que nous pouvons, tant pour l'âme que pour le corps, priant pour lui et le servant cordialement quand l'occasion s'en présente. Au sein des groupes auxquels nous appartenons, famille, communauté, milieu professionnel, nous avons toujours à faire l'effort de nous supporter mutuellement et de dépasser les heures qui ont pu se produire. Nous savons bien que notre nature bâillonne en mille sortes d'aigreurs quand on nous attaque, et que notre amour propre, il faut bien le dire, nous suggère toujours assez de mauvaises affections contre ceux qui nous attaquent. Mais grâce à Dieu, nous résistons et nous ne nous laissons pas emporter au mal. Ces bouillonnements sont l'expression du péché qui est en nous et qui nous porte à mal juger les autres. Ne sommes-nous pas enclins à voir la paille dans l'œil du voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre? Pour vivre dans l'harmonie et la fraternité, ne vaut-il pas mieux de toujours interpréter en la meilleure part qu'il se peut ce que nous voyons faire à notre prochain? N'est-il pas plus utile de ne regarder les actions d'autrui que pour en remarquer les vertus et non seulement les imperfections? La vie sociale se construit jour après jour. Elle s'accommode, et ceci même beaucoup mieux, d'un regard positif qui met en valeur les autres. Prenons conscience des dégâts que provoque notre esprit critique et notre négativité. Voyez-vous, le vaste champ de la charité fraternelle est le terrain concret où doit se vivre notre recherche de sainteté. Il est aussi celui où nous pouvons le mieux être des témoins du Christ. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que nous serons reconnus comme disciples du ressuscité. Donc, si nous voulons montrer que nous aimons bien Dieu, et si nous voulons montrer que nous aimons vraiment de tout notre cœur le Seigneur, et si nous croyons quand nous l'assurons, eh bien, il nous faut bien aimer, il me semble, nos frères et sœurs, les servir, les aider dans leurs besoins. Et si cela est possible, eh bien, impossible de tricher, car si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit tous les jours, ne saurait jamais aimer Dieu qu'il ne voit pas. En effet, voyez-vous, avons-nous tous, et moi y compris, bien compris tout ce que nous venons d'entendre? Car les bénédictions divines sont acquises à celui, à celle qui se laisse conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Seigneur. Dieu favorise grandement ceux qui pratiquent la charité envers leurs frères et sœurs. Il n'y a rien qui attire tant sa miséricorde sur nous que cela. D'autant que notre Seigneur a déclaré que c'est vraiment son commandement. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble, et avant la prière, j'aimerais vous donner quelques mots d'encouragement. Il est dit dans Colossiens chapitre 3 verset 14, mais que par-dessus tout, il y ait l'amour qui est le lien de la perfection. les disciples de Jésus-Christ sont appelés à être les artisans de la paix dans son royaume de l'amour. Jésus-Christ leur demande de tout mettre en œuvre pour que là où régnait la discorde, surgisse l'unité. Ne considère jamais avec indifférence quand la désunion se manifeste à tes yeux dans la communauté, mais essaie de guérir la déchirure par le moyen de l'amour humble. Accepte même de te placer toi-même dans la brèche et prépare-toi à en payer le prix par la mort de ton moi. Sois convaincu que là où nous nous donnons pour les autres, où nous ne refusons pas d'être l'accusé, le mépriser, le repousser à leur place, nous frayons le chemin au triomphe de l'amour de Christ qui peut tout accomplir. Prions maintenant ensemble. Prions. Seigneur Dieu Saint, nous sommes entourés, pénétrés de silence. Tout se tait. Mais toi, tu es là, tout proche. Nous ne pouvons te constater, mais nous te devinons. Remplis toujours davantage notre cœur du sentiment de ta présence, de la perception de ton Esprit Saint, de la compréhension de ta volonté. Fais-nous entendre l'inaudible. Fais-nous voir l'invisible. Rends-nous attentifs aux avis, aux signes, aux avertissements qui viennent de toi. Maintiens devant nous la vision de ce monde caché d'où nous venons et où nous voulons retourner. Mais ne nous laisse pas nous détacher de la terre par de tels sentiments et daigne, au contraire, nous rendre joyeux, forts et riches pour ton service ici-bas. Oh oui, Seigneur, saisis nos mains et agis par elles. Prends nos lèvres et parle par elles. Envahis notre cœur et fais de lui un flambeau d'amour, éclairant de ta lumière ce monde de ténèbres et d'égoïsme. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. C'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et j'espère à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.